La plupart des apparitions de Notre-Dame, d'ailleurs, à Lourdes, ont été des apparitions silencieuses. Et nous ne comptons, pendant ces 18 apparitions, que 12 paroles. C'est-à-dire que toutes les autres sont superficielles. Monsieur l'abbé Cellini va vous entretenir sur le thème de sa conférence, sur ce que notre Seigneur doit à sa très sainte mère. Cette conférence est tout à fait complémentaire à celle que vient de faire Monseigneur Tissier qui reprendra sa conférence et qui enfoncera le clou en début d'après-midi. Vous voyez, je suis à Lourdes, mes supérieurs m'y ont mis, et j'ai la grave mission d'essayer de vous introduire dans cette prière mariale. Nous voyons à Lourdes beaucoup de choses. Vous avez eu quelques échantillons ce matin à la grotte. Ces messes qui ne sont pas bien célébrées, ces guitares. Et lorsque vous êtes acheminé vers le car, il y avait la batterie, on dansait. J'ai vu des gamins se trépiner. Cela n'est pas convenable. Cela n'est pas lourd. Nous devons réapprendre ce qu'est Lourdes, qui est Notre-Dame. Et ce que la théologie nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le sang va aussi parler. Et il nous faut comprendre ce lien intime qu'il y a entre Notre-Dame et notre Seigneur. Si vous le comprenez, alors vous comprendrez que Notre-Dame ne peut prêcher que notre Seigneur Jésus-Christ. Que son but n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc qu'à Lourdes, il y a, et nous le verrons mieux encore demain avec le mystère de la rédemption, à Lourdes, il n'y a que cette immolation. Je disais à certains qu'à Lourdes, la nouvelle liturgie a tout détruit. Nous avons fait ce début du chemin de croix, ce chemin de croix il y a 2 jours. Sachez que, et au moment de la bénédiction de la basilique de l'Immaculée Conception, il y avait autour des 15 évêques consécrateurs des autels de la basilique de l'Immaculée Conception, il y avait 3000 prêtres. Je ne sais pas s'ils ont concélébré, mais habituellement à Lourdes, chaque prêtre célébrer sa messe. Tous les autels voyaient la célébration d'une, deux, trois, quatre, cinq messes. Une messe ininterrompue à Lourdes. Cela a été magnifique. Cela a été le message de Lourdes. Lorsque Notre-Dame demande une chapelle, c'est pour que son fils continue à être immolé. Et si vous l'avez compris avec Monseigneur et avec l'abbé Cellini, eh bien, de quelle immolation, de quelle intimité elle vu que ses fidèles s'unissent à ce sacrifice. Voilà le message de Lourdes. Le reste n'est que blabla.
Éminence, chers confrères dans le sacerdoce, chers fidèles, cette conférence n'est pas de moi. Je vais me contenter d'essayer de vous présenter, de vous donner une forme peut-être un peu plus accessible, un petit traité, un magnifique, une conférence d'ailleurs, du père Spic, qui a d'ailleurs été professeur quelque temps à Écône, un exégète, un dominicain, et qui a écrit un petit livre introuvable. Ce que Jésus doit à sa mère selon la théologie biblique et d'après les théologiens médiévaux. Et nous pourrions intituler cette conférence Ad Mariam per Jésus. Nous utilisons souvent cette expression « ad Jesum per Mariam », « à Jésus par Marie ». Et nous désignons ainsi, le but de la dévotion mariale. Si nous honorons la très sainte Vierge Marie, si nous la louons, si nous lui rendons un culte particulier, le culte d'hyperdulie, c'est toujours pour aller à son divin Fils, ad Jesum per Maria. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de faire le chemin inverse. Ad Mariam per Jesum, à Marie par Jésus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il s'agit de contempler, je pense que le mot est juste, contempler la très sainte Vierge, notre Mère, mais une contemplation qui ne sera vraiment fructueuse que si la lumière que nous employons est Jésus-Christ lui-même. C'est lui, la lumière du monde, qui va éclairer notre méditation. C'est à lui que nous allons demander d'être notre guide. Et c'est en le considérant, lui, que nous allons pouvoir découvrir les grandeurs de la très sainte Vierge, les grandeurs de Marie. Saint Thomas d'Aquin dit que trois choses créées ne peuvent être rendues meilleures par Dieu. Trois choses créées, c'est-à-dire autrement dit, Dieu ne pourrait pas faire quelque chose de plus grand que ces trois choses. C'est-à-dire, quelle audace! Est-ce que Dieu serait limité dans sa puissance? Est-ce qu'il est possible que Dieu soit ainsi dépossédé de cet attribut de toute puissance? Et pourtant, eh bien, ces trois choses, ce sont tout d'abord l'humanité du Christ, du fait qu'elle est unie à Dieu. La seconde, la deuxième, c'est la béatitude créée. La béatitude créée, c'est-à-dire celle des bienheureux au ciel, celle qui nous attend si nous sommes, par la bonté et la grâce de Dieu, si nous sommes sauvés, voir Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la vision de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la vision de Dieu. Et la troisième, c'est la bienheureuse Vierge. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Oui. Dieu ne pourrait pas faire plus grand que la très sainte Vierge parce qu'elle est la mère de Dieu. Et c'est donc la maternité divine qui est l'ordre spécifique, l'ordre spécial de la Vierge des Vierges. Or, nous savons que chaque personne choisie par Dieu va recevoir, avec la mission qui lui est donnée, eh bien, la grâce. La grâce et tous les moyens qui sont proportionnés pour accomplir cette mission. Et c'est donc par la maternité divine que tout se comprend, que tout s'interprète dans la très sainte Vierge. Et nous allons voir que cette maternité divine bien jette une lumière très puissante, très forte sur l'Immaculée Conception qui est vénérée particulièrement à Lourdes. Dans le symbole des apôtres, vous connaissez bien ce symbole, c'est celui qu'on récite au début du chapelet, nous disons « a été conçu du Saint-Esprit ». Nous disons le Seigneur Jésus-Christ, il a été conçu du Saint-Esprit. Eh bien, l'humanité de notre Seigneur, de notre Sauveur, a été créée, a été produite d'une façon toute particulière. Et tout d'abord, notre foi, appuyée sur l'Évangile, l'Évangile de Saint-Luc en particulier, eh bien, nous enseigne que l'intervention mystérieuse, mais admirable du Saint-Esprit dans cette conception de Jésus-Christ, eh bien, doit être attentivement étudiée. Il faut remarquer en particulier deux choses qui vont peut-être vous surprendre. La première, c'est que cette intervention du Saint-Esprit est en réalité une intervention de la Sainte et Adorable Trinité tout entière. Ce n'est pas le Saint-Esprit seul qui agit. Ce serait une erreur de le penser. En effet, pourquoi? Eh bien, c'est que dans toutes les œuvres qui sont produites par Dieu, la théologie dit « ad extra », c'est-à-dire en dehors de Dieu, en dehors de ce qui se passe à l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire les processions divines, le Verbe engendré de toute éternité et le Saint-Esprit qui procède, ce sont ce qu'on appelle les œuvres ad intra, ce qui se passe en Dieu, dans, au sein de la Trinité. Donc toutes les œuvres qui se déroulent en dehors de Dieu, eh bien c'est toujours Dieu qui agit, Dieu dans ces trois personnes, et non pas une personne particulièrement. Alors vous allez dire, mais pourquoi dit-on que le Père a créé, par exemple? Pourquoi dit-on que le Fils est la source de la sagesse? Ou pourquoi dit-on encore que le Saint-Esprit nous donne la grâce? Ou bien que notre Seigneur a été conçu du Saint-Esprit? Pourquoi? C'est une manière de parler. C'est une manière de parler qui est d'ailleurs tout à fait bonne, louable, sanctionnée par l'autorité de l'Église, par la théologie et l'autorité de l'Église. C'est-à-dire que on appelle ça une attribution ou une appropriation. On attribue, on approprie, le terme technique est approprié, mais nous pouvons prendre le terme moins difficile, attribuer des œuvres en tant qu'elles reflètent davantage telle ou telle relation existant entre les trois personnes divines au sein de la Trinité. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que le Père soit la source de toute la Sainte Trinité, qu'il engendre éternellement son Fils, et que de lui procède aussi le Saint-Esprit, qu'il donne à son Fils de pouvoir procéder le Saint-Esprit avec lui, eh bien on va lui attribuer les œuvres de puissance, puisque c'est de lui que tout procède. Mais en réalité, ces œuvres de puissance produites dans la création, elles sont l'œuvre de toute la Trinité, de toute la Trinité. Ainsi, donc l'œuvre de l'incarnation est attribuée, appropriée au Saint-Esprit, mais elle est une œuvre qui est rigoureusement produite par la Trinité dans son unité. Ça, c'est le premier point. Et le second qu'il faut remarquer, c'est que dans cet acte qui aboutit à l'incarnation, Dieu n'exerce pas de paternité. Et ça aussi, c'est important. En effet, pour deux raisons. D'abord, parce que être père ou être mère, je ne veux pas faire de misogynie, donc être père ou être mère, rassurez-vous, mesdames, c'est communiquer sa propre nature. Ou ceux qui parmi vous êtes parents, vous avez communiqué votre propre nature humaine à vos enfants. C'est cela, la paternité ou la maternité, communiquer sa propre nature. Or, ce qui est engendré sous l'action du Saint-Esprit, c'est une nature humaine. C'est une nature humaine, c'est pas le Verbe il est engendré de toute éternité au sein de Dieu. C'est donc une nature humaine qu'il faut bien distinguer justement de la nature divine. Si nous ne distinguons pas, nous allons faire comme les monophysites qui disaient qu'il n'y a qu'une seule nature en Jésus-Christ, hérésie très grave. Donc, c'est une nature humaine. Dieu ne devient aucunement le Père de Jésus de cette manière-là. Au contraire, par exemple, de ce qui se passe dans le don de la grâce. La grâce que nous recevons par le baptême, par les sacrements. Bien là, vraiment, il y a une paternité de Dieu parce que nous recevons une participation de la nature divine. Nous devenons vraiment, au sens strict, Fils de Dieu, nous recevons la nature de Dieu en nous. La grâce, c'est Dieu en quelque sorte. La grâce nous fait devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en quelque sorte déifiés. Et c'est grâce à son épanouissement dans la gloire. Saint Jean dit que nous serons Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, il n'y a pas de paternité, en ce sens-là, dans l'action du Saint-Esprit. Et d'autre part, il faut repousser. Et là, peut-être que parmi vous, il y a des erreurs. Rassurez-vous, ce n'est pas des hérésies, vous n'en êtes pas conscient. Mais peut-être, à moins que vous n'ayez jamais réfléchi à la chose, il y a une erreur à ce sujet. Il faut repousser comme absolument abominable et totalement erroné l'idée que l'action de l'Esprit Saint, pour reprendre l'appropriation, c'est l'action de Dieu tout entier, mais reprenons l'appropriation de l'Esprit Saint, aurait consisté dans ce que notre langage, je vais dire ce qui va vous être le plus familier, dans notre langage contemporain, eh bien nous appellerions une fécondation artificielle. C'est un mot horrible à dire comme cela, Mais vous comprenez bien, il ne s'agit pas de cela. Parce que s'il s'agissait de cela, eh bien notre Seigneur serait tout simplement un homme né de père inconnu. Il n'y a pas, absolument pas, d'apport extérieur par l'Esprit Saint. Non, l'action de l'Esprit Saint consiste en autre chose. C'est capital à saisir, cela. Parce que, en plus, de toute façon, cela ne ferait pas de l'Esprit Saint ou de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'encore une fois, pour être Père, il faut communiquer sa propre nature. Alors, continuons. Il est dit également, dans le symbole des apôtres, que notre Seigneur est né de la Vierge Marie. Est né de la Vierge Marie. Alors, nous avons vu, en regardant l'action de l'Esprit Saint, que il y avait eu, de la part de l'Esprit Saint, il y avait eu une certaine action, mais que, du côté de la Très Sainte Vierge, obligatoirement, parce que nous venons de dire, il a fallu un don total de l'humanité sainte, ou de la partie corporelle, si vous voulez, de l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute la partie corporelle, je parle de la partie corporelle parce que l'âme, ce n'est pas la Très Sainte Vierge qui l'a donnée, bien évidemment. Toutes les âmes sont créées par Dieu pour être unies à un corps. Bon, à un corps qui est procréé par les parents. Mais quand il s'agit de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tout ce qui fait la partie corporelle de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ vient de la Très Sainte Vierge. Tout le corps de la Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui fait son humanité en tant que corps, vient de la Très Sainte Vierge. Et ça, ça va avoir des conséquences très importantes. Très importantes. Parce que cela, ça va nous expliquer un certain nombre de choses sur l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, généralement, quand on en parle, on pense, la première chose à laquelle on pense, c'est une chose négative, le fait que la Très Sainte Vierge ait été préservée du péché originel. C'est capital, bien évidemment. Mais généralement, on s'arrête là. Or, l'Immaculée Conception, le privilège de l'Immaculée Conception, comporte trois autres aspects très importants. Le deuxième concerne également la grâce. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vais le signaler. Cela aussi, on en parle d'habitude, mais on l'oublie parfois un peu. C'est que le privilège de l'Immaculée Conception comprend donc de manière négative le fait que la Très Sainte Vierge n'ait pas été touchée par le péché originel et le fait qu'elle ait reçu une certaine plénitude de grâce. Une plénitude de grâce. Et cette plénitude, eh bien, plénitude pour le moment de sa conception, elle n'a jamais cessé d'être une plénitude. Durant tout au long de sa vie, la grâce n'a jamais cessé d'augmenter et d'être une plénitude dans la Très Sainte Vierge pour aller s'épanouir dans la grâce de l'Assomption que nous avons célébrée hier, dans la grâce de l'Assomption qui est, selon les paroles de Saint Jérôme ou de Saint Léon le Grand, qui est une grâce qui est quasi équivalente à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jérôme dit « quasi », comme équivalente à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas évidemment qu'elle soit la source de la grâce, mais qu'elle a reçu la Très Sainte Vierge au moment de son Assomption, a été tellement remplie de grâce qu'elle recevait, elle a reçu en quelque sorte toute la grâce qui découlait de notre Seigneur. Et voilà pourquoi elle est médiatrice de toute grâce. Toutes les grâces qui viennent au Seigneur Jésus-Christ passent par elle. Toutes les grâces passent par elle. Donc ça, c'est l'aspect positif de l'Immaculée Conception au niveau de la grâce. Mais il y a un autre aspect très important. C'est au niveau du corps. Au niveau du corps. C'est que, eh bien, la Très Sainte Vierge devait être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle devait donner toute la matière du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Très Sainte Vierge, elle est la fille, eh bien justement, de Saint Joachim, que nous fêtons aujourd'hui, et la fille de Sainte Anne. Mais Saint Joachim et Sainte Anne ont été marqués, eux, par le péché originel. Et ils charriaient en quelque sorte, à travers même leur noblesse, leur grandeur, leur race, qui est quand même une race royale, malgré tout, ils charriaient certains éléments qui venaient du péché originel, certaines tares, peu importe lesquelles, peu importe le degré, mais nécessairement, ils étaient marqués par ce péché originel, forcément. Et si la Très Sainte Vierge a reçu un corps marqué par les conséquences du péché originel, elle aurait dû transmettre cela à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, il a fallu que la Très Sainte Vierge soit préservée non seulement au niveau de son âme, mais, je dirais bien plus, c'est une manière de parler, bien plus pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, bien plus au niveau de son corps. Le Tout-Puissant a voulu une mère immaculée pour son fils, non seulement au niveau de son âme, mais au niveau de son corps. Il l'a préservé de tout ce qui avait été transporté, charrié du péché originel par ses parents, par sa race. La Très Sainte Vierge est immaculée dans son âme et dans son corps, comme le dit la très belle prière de Saint Pie à l'Immaculée Conception. Elle est immaculée dans son corps aussi. Elle a un corps parfait. Donc l'aspect négatif, c'est qu'elle n'est marquée par aucune tare du péché originel. Mais de plus, l'aspect positif, c'est qu'elle a un corps parfait. Parce qu'elle devenait donner le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'homme parfait, qui est le nouvel Adam, qui est celui qui réalise la perfection dans la nature humaine. Eh bien ça, c'est notre dame qui devait lui donner. Et si elle ne l'avait pas eu dès son Immaculée Conception, comment l'aurait-elle eu? Et donc c'est dès son Immaculée Conception que la Très Sainte Vierge a été préparée à cette maternité en lui donnant un corps préservé de toute souillure, de toute tare venant de notre déchéance de fils d'Adam, et elle a été... Elle lui a été donnée la perfection dans la nature humaine. Elle est la nouvelle Ève, parfaite en son corps comme en son âme, parce qu'elle devait donner la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est capital, parce que ce qui fait une âme, c'est le corps en quelque sorte. Je m'explique. La valeur d'une âme, elle dépend du corps. Toutes les âmes sortent des mains de Dieu, en quelque sorte, à égalité. Elles sortent des mains de Dieu toutes identiques. Il n'y a pas de moment, comprenez, entre la création des âmes et l'infusion de l'âme dans le corps. Il n'y a pas d'instant, mais on peut en parler spéculativement. Eh bien, les âmes qui sortent des mains de Dieu, elles sont identiques. Et ce qui va faire la valeur différente de cette âme, c'est qu'elle va être unie à tel corps. Si, eh bien, nous sommes affligés de telle ou telle tare héréditaire, notre âme ne pourra pas se développer autant que ses possibilités le lui donnaient. Ce qui sort des mains de Dieu est parfait. Mais ce qu'a fait l'homme, la déchéance du péché originel dans le corps, hélas, est à moitié détruit, cassé, souillé. Et c'est pour cela qu'il était capital que notre Seigneur Jésus-Christ eût un corps parfait et que donc notre Très Sainte Vierge eût un corps parfait. Et vous voyez comment la maternité divine et la considération de notre Seigneur Jésus-Christ nous a amenés à considérer l'Immaculée Conception sous un jour que peut-être vous n'aviez pas envisagé. Et comment cet éclairage de la maternité divine nous permet de comprendre mieux, de dégager mieux certains aspects de l'Immaculée Conception. Eh bien, essayons de tirer quelques conséquences de ce que nous venons de découvrir. On pourrait tirer des conséquences innombrables. Nous pourrions, par exemple, considérer que le sein de la Très Sainte Vierge a été la cathédrale où s'est déroulée la première, ou l'unique, si vous voulez, ordination sacerdotale, l'ordination sacerdotale par excellence, parce que c'est en elle que le Verbe a épousé la nature humaine, et c'est dans cette union que réside le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est prêtre, pourquoi? Parce qu'il est à la fois Dieu et homme, et c'est dans le sein de la Très Sainte Vierge que s'est déroulée cette ordination sacerdotale. Et elle a fourni elle-même la matière de cette ordination sacerdotale. Nous pourrions considérer cela. Nous pourrions considérer que son cœur a été l'autel. L'autel où la divine victime a été consacrée à Dieu pour la mission rédemptrice qu'elle devait accomplir. Parce que c'est en elle qu'elle a été constituée, que la victime a été préparée par l'union, cette union ineffable qui offrait la nature humaine comme un sacrifice dès le moment de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, nous révèle saint Paul, dès le premier instant de sa conception, dit à son Père, « Me voici, parce que vous m'avez formé un corps. » C'est saint Paul, donc, appliquant une parole des psaumes, qui nous dit, « Voilà ce que dit notre Seigneur en entrant dans le monde. » Me voici parce que vous m'avez formé un corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Me voici pour m'offrir à vous. Me voici pour être la victime d'expiation. Et c'est là où se réalise cette parole, dans le sein de la Très Sainte Vierge. Et saint Bernard, il n'est pas le seul, mais saint Bernard dit que le cœur de la Très Sainte Vierge a été l'autel où s'est réalisée cette oblation, cette offrande. Parce que c'est elle qui a fourni en quelque sorte la matière de la victime. Nous pourrions admirer l'union merveilleuse, indicible, qui existait entre le cœur de cette mère immaculée et le cœur de son fils. Il faut bien comprendre, ils sont identiques. Et là, je me permets d'apporter un élément médical. On ne se refait pas. Parce que on peut se demander... on peut se poser la question d'un point de vue médical, pas seulement médical, mais aussi physiologique. C'est une question autorisée, si vous voulez. La théologie peut employer toutes les sciences inférieures pour se poser des questions. Comment a pu se dérouler ce mystère ineffable? Bien sûr, il ne s'agit pas de le percer, ce mystère, mais de voir ce que nous pouvons voir avec ce que le bon Dieu nous a donné de notre intelligence. Disons que il y a plusieurs solutions possibles, enfin plusieurs, une ou deux solutions possibles si on parle en termes de physiologie, mais je ne voudrais pas vous faire un cours de physiologie. Il y a une ou deux solutions possibles, disons deux. J'en rejette une parce qu'elle est compliquée. Or, le bon Dieu, il n'est pas compliqué, il est toujours au plus simple. Si on prend l'autre, qui me semble vraiment la plus facile, la plus simple, eh bien, cela veut dire que Dieu a pris une cellule, une certaine cellule, si vous voulez le terme technique, on appelle ça une ovogonie, une certaine cellule existant en la Très Sainte Vierge, et qui, eh bien, représente adéquatement la Très Sainte Vierge. C'est-à-dire que vous savez sans doute que toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique. Strictement, vous prenez n'importe quelle cellule de votre corps, et si on en fait une analyse génétique, si on regarde le noyau, les chromosomes qui sont dedans, on va trouver exactement les mêmes. On peut tout de suite distinguer un individu d'un autre, on prend une cellule n'importe où, la peau, la joue, on fait n'importe où, on fait une analyse chromosomique, et on dit tout de suite, on en met deux côte à côte, c'est pas le même, on voit tout de suite. Nous sommes absolument uniques à ce point de vue-là, sauf les vrais jumeaux, les jumeaux vrais. Quoique même on arrive à trouver quelques petites différences. Eh bien, cette cellule, elle était une cellule de la Très Sainte Vierge, donc représentant vraiment ce qu'est la Très Sainte Vierge au point de vue génétique. Et c'est cette cellule dont, sans doute, le bon Dieu s'est servi pour produire le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, eh bien, qu'au point de vue génétique, je dis bien au point de vue génétique, Notre-Dame et notre Seigneur sont jumeaux. Surprend peut-être, je parle au point de vue génétique, il est bien évident que Notre-Dame est bien la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela n'entre pas en discussion. Je parle au point de vue strictement génétique. Mais au point de vue génétique, ils sont jumeaux. Ils se ressemblent comme des jumeaux. Et vous savez, quelle ressemblance extraordinaire ont de jumeaux, c'est bien que, en dehors de ceux qui les connaissent bien, les confondent. Ils sont des jumeaux. Et cela, ça explique Cela va expliquer l'extraordinaire communauté. Communauté de cœur, d'intelligence, d'amour. L'extraordinaire communauté de tout ce qui fait l'humanité d'une personne entre la Très Sainte Vierge et Notre-Dame. Extraordinaire communauté. Impossible à décrire, il n'y en a pas d'autre dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Eh bien, précisément, nous pourrions admirer, et cela, c'est, je pense que c'est un regard qui peut permettre d'admirer plus encore l'union qui existait entre la Très Sainte Vierge et le Seigneur Jésus-Christ, en particulier dans la compassion. Dans la compassion, au pied de la croix. Une union, encore une fois, indicible, non seulement dans l'ordre de la nature, parce que là, je ne parle que de l'ordre de la nature, sans compter évidemment l'ordre de la grâce, dont j'ai parlé un petit peu aussi. Cette grâce extraordinaire qui découlait de notre Seigneur sur la Très Sainte Vierge. C'est un mystère, parce qu'elle est tellement proche de notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle entre dans la sphère de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ est un mystère. Et cette union de cœur a été magnifiquement caractérisée, pour ma part, je trouve, par Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes, que nous allons bientôt célébrer le 19 août, eh bien, ne parle pas des cœurs de Jésus et de Marie. Il parle du cœur de Jésus et de Marie. En un mot, il a tout dit. Du cœur de Jésus et de Marie. Oui, ils ont un seul cœur. Un seul cœur. Et d'ailleurs, Mgr Lefebvre, dans son itinéraire spirituel, a une parole qui rappelle justement cette union extraordinaire au point de vue de la chair. Il dit que, en parlant de la Très Sainte Vierge, il dit que lorsque nous communions à Sainte Eucharistie, eh bien, c'est son corps auquel nous communions. Évidemment, il ne veut pas dire, bien évidemment, que la Très Sainte Vierge est présente dans la Sainte Eucharistie. Évidemment, ce n'est pas cela. Mais il veut dire que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement dépendante de la Très Sainte Vierge, et comme son corps provient totalement de la Très Sainte Vierge, que, eh bien, c'est en quelque sorte elle qui est présente, dans ce sens-là. Oui. Il y a une parenté absolue entre notre Seigneur et la Très Sainte Vierge. Parenté absolue. Alors, nous aurions tellement de pistes à suivre, comme je vous le disais, je vous propose de continuer à suivre ce Ad Mariam Per Jesum, puisqu'il nous faut bien nous limiter. Et nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer de lui demander, eh bien, de nous permettre de mieux comprendre la Très Sainte Vierge. Et pour cela, eh bien, considérons l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons-le dans sa complexion physique. Notre Seigneur Jésus-Christ fut beau. Il est le plus beau des enfants des hommes, comme le dit saint Paul. Il est vrai que les évangiles ne s'étendent pas sur la chose, ils ne nous lisent rien. Mais il y a quand même des indices. Nous voyons l'amabilité, l'attirance, la majesté, la fascination même qu'il exerce. Dans les récits où l'on voit la foule autour de lui, eh bien, il se presse pour l'écouter. Par exemple, Zachée est obligé de monter sur un arbre pour essayer de le voir. Notre Seigneur Jésus-Christ passait, tout le monde était là pour essayer de le voir. Vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ avait cette fascination sa beauté en particulier. Et la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste particulièrement dans son regard, le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a frappé les évangélistes. Ils en parlent souvent. Ils disent par exemple au sujet du jeune homme riche, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, aimant. Ou bien alors, le regard qui scrute jusqu'au fond de l'âme. Et Jésus, l'ayant regardé, s'il s'agit de Simon-Pierre, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Alors qu'il le rencontre pour la première fois. Ou alors, il peut manifester la colère. Alors, les regardant avec colère, et qu'il dit, les pharisiens qui venaient le tenter, à la beauté de son regard. Imaginons ce regard extraordinaire. Sa voix, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, une voix bien posée, portant loin, capable de parler sans micro, sans micro, durant des heures, en plein air, à des milliers d'hommes. Essayez cela, essayez déjà avec un micro. Sa santé également, sa santé. Eh bien, il n'est jamais question dans l'Évangile d'une maladie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa vie, il n'en est absolument pas question. Bien sûr, il subit la fatigue, c'est sûr, il subit la lassitude. Tout cela, c'est inhérent à notre nature. Même avec, sans le péché originel, nous aurions eu une certaine fatigue, une certaine lassitude par le travail, mais bienfaisante, bien sûr, qui n'aurait pas été une peine. Mais il n'était pas du tout accessible à ce qui découle du péché originel. Donc toutes ces pathologies dont vivent les médecins, il faut bien l'avouer, les médecins vivent du péché originel. Qu'est-ce que ça ? Ils sont... Il n'y a pas que, hein, je vais défendre un petit peu, il n'y a pas que. Enfin, je crois que c'est Léon Daudet qui parle des médecins comme étant des morticoles, ceux qui cultivent la mort. Enfin, pas trop quand même, parce que s'ils mouraient tous, il n'y aurait plus de patients. Il avait aussi une vigueur physique étonnante. Considérons cette vigueur physique. Nous allons commencer son œuvre dès le matin. Il commence dès le matin. Voilà ce qui est dit dans l'Évangile. Le lendemain, s'étant levé de grand matin, il sortit et s'en alla en un lieu désert où il priait. Et cela, c'est plusieurs fois mentionné dans l'Évangile. Sa vie publique, eh bien, elle est remplie des courses évangéliques. Nous le voyons aller en Samarie, en Judée, revenir, repartir, aller en Syrophénicie, revenir à Capharnaüm, aller en Pérée. Il voyage sans cesse. À pied, bien sûr, il n'y avait pas de voiture ou de TGV à l'époque. Il passe cette vie souvent en plein air, hein, au milieu de la nature, bien sûr qui est bienfaisante, elle, mais exposée aux intempéries. Vous savez bien, c'est lui qui le dit. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'a pas de lieu fixe. Il est souvent obligé donc de subir les intempéries. Et puis au milieu, tout cela, au milieu d'occupations fatigantes. Il est dit par exemple qu'il n'avait pas le temps de manger. J'espère que vous n'allez pas vous plaindre de cela, monsieur l'abbé Putois. Il n'avait pas le temps de manger. Ils vinrent dans une maison et la foule s'y assembla de nouveau en sorte qu'il ne pouvait pas même manger du pain, est-il dit dans l'évangile de saint Marc ou ailleurs, car ceux qui y allaient venaient étaient si nombreux qu'ils n'avaient pas même le temps de manger. Une vie vraiment difficile, une vie dure, imaginons cette vie de prédication. Il prolonge tard dans la nuit sa journée, il guérit les malades. Cependant, le soir venu, lorsque le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques, et il les guérit. Ou alors, dans des longues discussions, nous voyons avec Nicodème, c'est le troisième chapitre de saint Jean, il a une longue discussion avec Nicodème pendant la nuit, et à d'autres moments aussi. Il arrive de prêcher à ses disciples, même pendant la nuit, parce qu'il n'a pas le temps pendant la journée. Il passe aussi les nuits en prière. Il arriva quand ce jour-là, il se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous pouvons voir aussi son comportement, son attitude coutumière, la manière dont il avait de se tenir. Eh bien, dès son enfance, on est frappé. Son charme, sa grâce, sa délicatesse. Le moment lorsqu'il eut 12 ans. Cependant, Jésus avançait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est l'évangile de saint Luc. Ou même lorsque, précisément, c'est à ce même moment où il est perdu et retrouvé au temple, tout le monde est frappé par sa manière de tenir, sa manière de parler. Eh bien, demandons-nous, d'où lui provient cette beauté ? Ce regard si bon, si doux, si pénétrant, ces yeux qui reflètent le ciel, qui contiennent le ciel, cette voix pour proclamer la rédemption à toute créature, cette santé inaltérable, réellement inaltérable, et non pas métaphoriquement, cette vigueur physique que rien n'abat, aucune épreuve, aucune difficulté. Bien, tout cela, il le doit à sa mère, à sa maman. C'est la beauté de Notre-Dame. Ce sont ses yeux, son regard, rempli d'innocence, immaculé. Cette voix qui a prononcé la première, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus qui signifie sauveur. Cette santé, eh bien, il la doit à la santé merveilleuse de sa mère. Et cette vigueur lui vient droit du sang très noble et très pur de la Vierge, forte comme une armée rangée en bataille. Oui, il lui doit tout cela. Et il lui doit dans son immaculée conception. Au sujet de la Vierge forte, rangée comme une armée en bataille, je ne peux m'empêcher de faire une parenthèse, un aparté. Le porte-parole de l'épiscopat français, le père Labrosse, dominicain, c'est pas pour attaquer les dominicains, rassurez-vous, je ne prépare pas une peau de banane pour le prédicateur. Non, non, il y a des dominicains dévoyés, ça existe, hélas. Eh bien, le père de Labrosse a eu, je ne sais pas comment on doit qualifier ça, le culot, l'inconscience, de dire expressément ceci: la Vierge n'est pas une Vierge guerrière, elle n'est pas une armée rangée en bataille. Je vous assure, c'est une citation textuelle, je vous l'assure, je vous le garantis. Eh bien, excusez-moi, mais enfin, pendant des siècles, pendant 15 siècles, si ce n'est 16, je vais regarder un petit peu justement depuis quand on donnait ce titre à la Sainte Vierge, on a dit que la Vierge était forte comme une armée rangée en bataille. Alors je ne vois pas comment le père de Labrosse peut s'élever contre 16 siècles de pratiques liturgiques sanctionnées par toute la tradition et les papes pour dire qu'elle n'est pas cela. Et lui voler ce titre. Lui voler, c'est un vol incroyable, inimaginable, proprement inimaginable. Elle est cette Vierge forte comme une armée rangée en bataille. Et cette force, elle l'a reçue pour pouvoir la donner à son divin fils. Au point de vue, je parle corporel, parce qu'au point de vue de la grâce, évidemment, c'est l'inverse. Mais cette force, cette vigueur, elle l'a reçue pour la donner à son fils. Et puis, passons aux qualités morales et intellectuelles. Comprenons toujours que considérer notre Seigneur Jésus-Christ en son humanité, c'est voir Notre-Dame à travers lui. Ad Mariam per Jesum, à Marie par Jésus. Voyons sa sensibilité, la sensibilité de notre Sauveur. On pourrait dire des centaines, des milliers de choses. On le voit capable d'admiration. Il dit à la femme syrophénicienne qui vient la supplier pour sa fille, il lui dit: ô femme, ta foi est grande. Oui, notre Seigneur est capable d'admiration avec sa science extraordinaire, sa science de Dieu, la vision béatifique, la science infuse. Il est encore capable d'admiration parce qu'il a une science humaine, expérimentale, par laquelle il peut admirer. En vérité, je vous le dis, dit-il aussi, je n'ai pas trouvé une foi si grande en Israël. Sujet du centurion. Sa joie et sa paix qui rayonnent de manière extraordinaire. Tout le monde vient à cause précisément de cette joie et de cette paix. On sent cette présence. Sa délicatesse de cœur. Chaque page de l'Évangile la montre. Nous voyons sa douceur si touchante, le lavement des pieds. Quelle douceur extraordinaire ne fallait-il pas à notre Seigneur Jésus-Christ pour laver les pieds de ses apôtres. Lorsqu'il affirme encore qu'il est venu pour servir, il affirme qu'il est venu pour servir, ou encore qu'il est doux et humble de cœur. Il est familier et accessible à tous, avec les enfants. Le voyons avec les enfants, sa bonté, et surtout quand on veut essayer de les éloigner. Non, non, laissez venir à moi les petits-enfants, avec les étrangers aussi. Il les accueille avec bonté. Nous voyons sa puissance d'émotion. Elle s'épanche bien dans son ardeur, un zèle brûlant lorsqu'il s'agit de chasser les marchands du temple, une sainte passion pour la gloire de Dieu. Nous voyons aussi sa faculté de compassion, sa faculté de compassion. C'est l'incarnation du cœur de Dieu, sa miséricorde. Hein, les reproches, par exemple, à ses disciples, leur zèle amer, lorsqu'ils veulent faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui ne les ont pas accueillis, eh bien, il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, parce que notre Seigneur est miséricordieux, lui. Il marque sa préférence aux pécheurs, nous le voyons sans cesse dans l'Évangile avec les pécheurs. Alors qu'il stigmatise le péché avec une force divine, eh bien, il est avec les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et on peut voir son attitude avec ces pauvres âmes qu'il rencontre tout au long de son ministère. La Samaritaine, quelle bonté avec la Samaritaine, quelle bonté pédagogique progressive pour lui faire découvrir la vérité. La pécheresse de Magdala, une scène des plus bouleversantes de l'Évangile, avec cette pécheresse qui se jette à ses pieds, et quelle bonté il va lui montrer en montrant à Simon son ingratitude en quelque sorte. Zachée aussi, avec Zachée, avec la femme adultère. On pourrait citer la parabole de l'enfant prodigue. C'est lui qui nous est montré, lui et son père, qui nous ont montré dans cette affection, dans cette bonté pour les pécheurs. Sa patience avec les disciples, qui ont tant de mal parfois à comprendre, il s'en plaint. Mais combien de temps serai-je avec vous, dit-il. Et oui, parfois, il est oppressé par les défauts de ceux qui l'entourent. Avec Judas. Lorsque Judas vient dans le jardin, quel titre lui donne-t-il ? Ami. Ami. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Ami. Il lui donne le titre de l'ami et il se laisse embrasser par Judas. Cette douceur, cette compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis son intelligence. Nous pourrions passer des heures à contempler l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lucidité extraordinaire de la pensée, les réfutations, simplicité merveilleuse, lumineuse des pièges qui lui sont tendus, même ses ennemis le reconnaissent. Nul n'a parlé comme lui. Ils étaient en admiration devant lui également, c'est ce que dit l'Évangile. Ce don d'observation qui lui permet de livrer ce qui est le plus difficile à livrer, le surnaturel, de le livrer dans des paraboles simples. Combien il nous est difficile de contempler le ciel, le surnaturel. Bien, notre Seigneur Jésus-Christ, avec tes paraboles d'une simplicité qui permettent à tous de comprendre, même aux gens les plus simples, les plus incultes, va livrer cette doctrine du ciel. Il va ouvrir le ciel devant eux. Sa conscience de sa messianité qui est si claire, si nette, si évidente, mais en même temps si modeste, si discrète. Et puis sa volonté, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, inflexible, quand il faut faire le bien ou quand il faut combattre le mal. Il garde en toute chose une liberté souveraine. Il est libre, absolument libre. Libre du péché, libre de tout. Et même et surtout dans sa passion, sa force de volonté dans sa passion. Ma vie, personne ne me l'ôte, mais c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Oui, volontairement, personne ne peut me la prendre. Il aurait pu rester sur la croix indéfiniment. La Seigneur Jésus-Christ donne sa vie. Il lui faut, en plus, pensons à certaines choses, il faut un courage héroïque, il faut le dire, un courage héroïque, pour s'interdire la mise en œuvre de sa puissance divine. Il est oppressé par ses ennemis, il est combattu, il y a tant de bien à faire, il y a tant de mal à combattre. Et non, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, manifeste sa puissance divine, mais autant qu'il le faut, pas plus qu'il ne le faut. Et au moment de sa passion, il la voile complètement. Il la voit complètement alors qu'il est vraiment dans l'angoisse, voyons-le au jardin des Oliviers, il est abattu, il est dans une détresse qui peut nous sembler incroyable. Pourtant, il ne fait pas usage de sa puissance divine pour se tirer de cette angoisse qu'il a voulu éprouver. Son dévouement total à la mission que lui a confiée son père. Alors ça, il le dit dès l'âge de 12 ans. Je suis venu, vous ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Et il l'affirmera jusqu'à la dernière heure. Entre vos mains, mon père, je remets mon esprit. Du premier mot qu'il prononce, ou qui nous a été rapporté plus exactement par les évangiles jusqu'au dernier, c'est le dévouement total, absolu à son Père. Et puis sa bonté constante au milieu des pires épreuves. Au jardin des Oliviers, il préserve ses apôtres, laissez aller. Il commande à ses ennemis, vous les laissez aller. Il parle avec douceur à ceux qui l'interrogent et dont il sait et connaît la mauvaise volonté, le Sanhédrin, devant Anne, devant Caïphe. Il pardonne à ses bourreaux, c'est bien le premier dans l'histoire de l'humanité qui a fait une chose pareille, pardonner à ses bourreaux. Il est le premier, après il aura des imitateurs, Saint-Étienne le premier imitateur, mais lui, il est le premier à le faire. Et puis il prend soin de son disciple bien-aimé et de sa très sainte mère à ses derniers instants. Eh bien, toutes ces choses, toutes ces qualités magnifiques, uniques que nous considérons en le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, d'où lui viennent-elles? D'où lui vient son héroïsme? Cette sensibilité parfaite, totalement équilibrée, cette douceur, cette compassion, cette bonté. Est-ce que vous ne reconnaissez pas ici le cœur immaculé? Cet amour des pauvres, des petits, des pécheurs. Est-ce que vous ne reconnaissez pas la mater miséricordieuse? Et ce zèle brûlant qui peut aller jusqu'à la colère voulue, maîtrisée. Eh bien, est-ce qu'il ne vient pas de celle dont il a été dit qu'elle écraserait la tête du serpent, celle qui a une haine absolue pour le mal? Cette intelligence parfaite au service de la révélation, est-ce qu'elle ne vient pas de celle qui gardait ces choses dans son cœur, les repassant et les méditant? Cette volonté enfin, qui s'est montré inflexible pour accomplir notre rédemption et qui en même temps s'est anéantie devant Dieu, eh bien, ne lui a-t-elle pas été donnée par celle qui a prononcé la parole la plus sage jamais sortie de la bouche d'une pure créature, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et ce fiat, il n'a jamais été repris, jamais été remis en question. Et ce qu'il a donné, c'est lui qui, dans son accomplissement, donne à Notre-Dame le titre de co-rédemptrice, parce qu'elle n'a jamais repris ce fiat et qu'elle l'a accompli jusqu'au pied de la croix. Et nous comprenons ainsi quelle lumière merveilleuse notre Seigneur projette sur sa mère. Son humanité sainte, cet instrument du Verbe pour notre rédemption, il l'a voulu en tout point conforme à celle de l'Immaculée. Il a voulu que son humanité sainte, celle qui devait servir à nous transmettre notre salut, eh bien qu'elle fût absolument identique à celle de notre Mère du Ciel. Eh bien, lorsque Notre-Dame donna son nom à Bernadette, à Sainte Bernadette, elle eut une expression extraordinaire, comme vous le savez, elle regarde le ciel, elle croise les mains sur le cœur, et dans un regard indicible, évidemment, que nous pourrons contempler au ciel, un regard d'action de grâce pour ce privilège unique, elle va dire qu'elle est l'Immaculée Conception. Eh bien, dans cette réponse, on peut lire aussi autre chose. On peut lire, je pense, la profondeur du mystère et l'émerveillement éternel de notre Mère d'avoir donné la nature humaine du Christ et de pouvoir être nommée ainsi Mère de Dieu. Non seulement cette action de grâce, mais cet émerveillement devant le fruit de ses entrailles. Eh bien, demandons-lui, ce sera ma conclusion, de nous faire participer à cette action de grâce. Rendons action de grâce pour les privilèges de la Très Sainte Vierge. Oui, remercions le ciel de lui avoir donné et d'avoir fait d'elle ce qu'elle est. Et puis participons aussi à cet émerveillement. Cet émerveillement, émerveillons-nous sur la Très Sainte Vierge. Dès ici-bas, avant de le faire, nous l'espérons dans l'éternité.
Pastorem in Lauda Deo, Salvatore, Lauda Duce.